Il est 18h.
RJB Info.
Le journal, Séverine Boya, bonsoir.
Bonsoir, c'est dans la douleur que Stan Wawrinka a passé le second tour de l'Open d'Australie. Le joueur de tennis vaudois a eu besoin de 5-7 pour venir à bout en début d'après-midi de l'Italien Andreas Seppi. Réaction dans un instant. La déclaration d'impôt 2019 a déjà fait son chemin dans les boîtes aux lettres de certains contribuables bernois. Il y a quelques nouveautés cette année, notamment concernant les gains empochés grâce au jeu d'argent. Les ménages suisses ne doivent pas consacrer plus de 10% de leur budget aux primes maladie. Le Parti socialiste a déposé aujourd'hui une initiative à cet effet. Le PS souhaite que ce qui excède à 10% soit à la charge des cantons et de la Confédération. Météo, le soleil devrait être de la partie demain matin, tandis que dans l'après-midi, le ciel se couvrira. Au meilleur de la journée, les températures oscilleront entre 6 et 8 degrés. Stan Wawrinka se qualifie dans la douleur à Melbourne. Le joueur de tennis vaudois a disposé de l'Italien Andreas Seppi cet après-midi au deuxième tour de l'Open d'Australie. Le Suisse s'est imposé en 5-7, 4-6, 7-5, 6-3, 3-6, 6-4. Il a dû batailler durant 3h38 pour prendre la mesure de son adversaire après une rencontre très disputée dans ce tournoi du Grand Chelem. Un succès particulier pour Stan Wawrinka, lui qui a dû lutter contre la maladie.
J'étais malade pendant 2 jours, au fond du lit pendant 2 jours, donc de pouvoir déjà rentrer sur le terrain, pour moi c'était une bonne nouvelle. Et quand je me suis réveillé, ça commençait à aller mieux, donc je sais à quel niveau je peux y aller ou à quel niveau je peux pas y aller. Et voilà, aujourd'hui c'était bien. En plus, dans l'ensemble, j'ai très bien joué, je suis content. Je me suis bien battu, j'ai pu maintenir l'intensité, j'ai pu maintenir mon niveau, même mieux jouer au fur et à mesure du match, donc c'est une très belle victoire. Je sais où j'en suis, je sais ce qu'il me faut, ce que j'ai besoin, et c'est clair que voilà, j'essayais un peu de sortir un peu plus d'intensité, de pouvoir en mettre un peu plus dans la balle. J'avais du mal, donc j'ai essayé d'autres moyens.
Au troisième tour, Stan Wawrinka sera opposé au grand serveur américain John Isner. De son côté, Roger Federer disputera son 16e de finale face à l'Australien John Millman demain matin vers 11h en Suisse. La première confrontation entre les deux hommes avait donné lieu à l'élimination du Balois en 8e de finale de l'US Open il y a 2 ans. Même s'il a rétabli la parité cet été à Halle, le Rennais devra se méfier de l'Australien Roger Federer.
Il joue coup droit, revers, de la même façon, toujours fort et croisé. Dès qu'il a la possibilité, bah, peut-être il change sur la longue ligne. Mais c'est vrai que le match à l'US Open, c'était assez compliqué pour moi. Physiquement, j'avais énormément de problèmes avec la chaleur. Et c'était son mérite parce qu'il était très bien préparé. Forcément, petit avantage peut-être parce qu'il est de Brisbane où il fait toujours chaud. Mais en tout cas, je jouais contre lui depuis à Halle et j'ai pu le battre. Alors peut-être c'est aussi quelque chose de bien pour moi.
Des propos recueillis par Helen Scott Smith, Roger Federer, John Millman. Troisième tour de l'Open d'Australie Tennis, c'est donc demain vers 11h en Suisse. Et le reste de l'actualité sportive, c'est tout à l'heure dans le Point Sport. Le couperet est tombé pour l'office de poste d'Orvin. Il fermera ses portes le 16 mars prochain. La commune avait tenté d'empêcher cette fermeture en intervenant auprès de la Commission fédérale de la Poste, mais elle n'a pas été entendue. Pour le maire Marc-André Léchaud, la déception de mine. Le bureau postal sera remplacé par un service à domicile et les solutions alternatives sont peu probables.
Ça va être compliqué d'obtenir plus. Il y a une recommandation de Postcom qui dit que, étant donné la masse importante de transactions financières de la part des prestataires touristiques des frais d'Orvin, que la Poste doit mettre à titre gracieux aussi à disposition de ces prestataires-là la possibilité de faire des transferts d'argent ou des dépôts d'argent. Donc ça, c'est déjà finalement un petit plus. Et puis, la Poste nous laisse 24 mois maintenant pour trouver éventuellement une solution avec un office postal chez un artisan ou chez un commerçant du village. C'est tout ce qui nous reste aujourd'hui comme solution, mais c'est un moindre mal, le service à domicile. Mais de nouveau, 22 km², c'est la commune. Entre le citoyen le plus bas du village et puis celui qui se trouve auprès d'Orvin, il y a une certaine distance. C'est une incompréhension de par le dégagement de CO2 s'ils doivent monter en voiture jusqu'au Pré d'Orvin par rapport à tous ces transports. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, finalement, la Poste prétérite l'ensemble de ses partenaires citoyens simplement parce qu'ils n'ont pas eu la clairvoyance il y a quelques années de faire une transition informatique, digitale suffisante pour éviter de devoir vendre des vignettes et puis des sucreries dans leurs offices postales et de les conserver. Je trouve aujourd'hui qu'on est victime d'un manque de clairvoyance de la part de la Poste. Et ça me met en rogne encore plus.
Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur rgp.ch. Marc-André Léchaud ajoute que des sondages ont déjà été effectués auprès des artisans et commerçants du village, mais que la démarche n'a pas suscité d'intérêt. À Moutier, dans l'affaire du drapeau jurassien qui flotte sur l'hôtel de ville, le comité Moutier-Ville jurassienne a réagi aujourd'hui dans un communiqué. Il estime que ses opposants essaient d'établir des conditions propres à un futur recours dans le cadre du nouveau vote sur l'appartenance cantonale de Moutier. Pour rappel, Moutier-Prévôté a écrit aux autorités cette semaine pour qu'elles retirent le drapeau jurassien en précisant que si tel n'était pas le cas, le comité antiséparatiste menaçait de déposer un recours auprès de la préfecture. Dans notre société, tout le monde doit pouvoir trouver sa place. C'est le message lancé ce matin par le comité régional qui défend la loi interdisant la discrimination en raison de l'orientation sexuelle. La population suisse doit se prononcer à ce sujet le 9 février à la suite d'un référendum lancé par l'UDF. 6 partis régionaux ainsi que l'association Juraguet ont tenu à se faire entendre à Saint-Imier. Unis, ils s'engagent en faveur de la liberté, comme l'explique Morane Rison du Parti Socialiste Autonome.
C'est une nécessité pour protéger les gens, pour protéger la liberté des gens de pouvoir vivre pleinement leur personnalité. On est là, on a une société qui doit protéger les gens et c'est pour ça qu'on s'engage. Et en fait, il y avait un manque dans la base légale, dans le code pénal, et les personnes n'étaient pas protégées en raison de leur orientation sexuelle. Donc ça répond à un manque, à un besoin, et la loi adapte cela. Et je pense que c'est d'autant plus important, et c'est vraiment aussi pour ça qu'on voulait faire un comité régional dans des régions qui sont plutôt basées sur des petites communautés, des villages, parce que là, il n'y a pas l'anonymat qui est réservé aux villes, qui permet parfois de permettre aux gens d'être moins confrontés à cette situation. Nous, on veut lancer un message vraiment de vivre ensemble au sein des petits villages. On veut montrer qu'on défend les droits des homosexuels, on défend les droits des lesbiennes et des bisexuels.
Le comité régional pour la loi interdisant la discrimination en raison de l'orientation sexuelle ira à la rencontre du public. Ce samedi, il sera dans la rue à Saint-Imier, Lanneville, Tramelant, Tavannes, Valbirse et Moutier. Et demain, dans la matinale, vers 7h30, RGB organise un débat sur cette votation. Nous recevrons Marc Fru, qui est contre cette loi, et Cédric Nemitz, qui la défend. Les impôts, c'est pour bientôt. Les contribuables recevront leur déclaration d'ici le 5 février. Nouveauté cette année, les gains réalisés grâce à des jeux d'argent de petite envergure, des casinos ou des maisons de jeux ne seront plus assujettis à l'impôt. Pour ce qui est de Swiss Loto, de l'Euromillion ou des casinos en ligne, les gains seront exonérés jusqu'à 1 million de francs. L'intendance bernoise des impôts a profité de sa conférence de presse ce matin pour faire d'autres annonces. Alexandre Steiner.
Elle a notamment souligné que les déclarations en ligne sont de plus en plus utilisées. 115 000 personnes sont passées par ce biais l'an dernier. À partir de cette année, il sera possible de transmettre encore plus de documents par Internet. Toutes les informations à ce propos seront disponibles sur la plateforme du canton. L'intendance des impôts a par ailleurs annoncé que dans le cadre des échanges automatiques de renseignements avec l'étranger, 135 000 comptes établis hors de Suisse ont été attribués à des citoyens du canton. Parmi les 400 comptes dont le solde était supérieur à 1 million de francs, 7 n'avaient pas été déclarés. Des procédures en rappel ou en soustraction d'impôts ont été ouvertes.
À noter encore que 1000 dénonciations spontanées ont été enregistrées l'an dernier contre 3460 l'année précédente. Cela représente des recettes fiscales de plus de 2 millions de francs pour le canton et les communes. S'échapper pour apprendre, la HEARC Santé a présenté aujourd'hui un nouveau concept pédagogique pour sa formation en soins infirmiers. La Haute École a intégré un escape game dans le cursus de la deuxième année de bachelor. Le jeu se déroule au sein du centre de simulation du site de Delémont. Les élèves doivent établir un diagnostic dans un laps de temps défini à l'aide d'indices présents dans la pièce pour pouvoir en sortir de la pièce. L'idée est de mobiliser les connaissances acquises pour pouvoir intégrer le raisonnement et l'examen clinique de manière ludique et en équipe. Étudiante en deuxième année en soins infirmiers, Amanda Berbera a pu tester cet escape game.
J'ai trouvé très intéressant qu'on fasse une démarche de soins d'un point de vue ludique plutôt que juste d'être en classe, d'avoir une situation sur papier puis de devoir appliquer quelque chose. Là, on était vraiment plus dans la réalité du terrain en fait.
Qu'est-ce que ça vous apporte de telles méthodes d'enseignement ?
Ça nous permet de nous rendre compte de toutes les connaissances qu'on a déjà acquises jusque-là, ce qui nous a permis de résoudre l'énigme et puis de voir tout le travail qu'il y a en collaboration et puis s'écouter les uns les autres et puis vraiment faire le point sur nos connaissances.
Ce que vous devez faire dans cette escape game, c'est cohérent avec ce que vous devriez faire dans la pratique ?
Exactement, tant au niveau de la prise en charge du patient que de la collaboration en équipe avec des gens qu'on connaît plus ou moins. Et puis vraiment, on doit s'adapter à chaque situation. Donc oui, c'est tout à fait cohérent avec ce qui nous attend après.
On retrouve le même stress, j'imagine ?
Effectivement, parce qu'on est dans cette salle, on se dit, mon Dieu, on doit sortir, donc il faut qu'on trouve. Comme quand on est en face d'un patient, OK, il y a une problématique, maintenant qu'est-ce que je fais ? Il faut que je trouve pour son bien-être.
Amanda Berbera, étudiante en deuxième année en soins infirmiers au micro d'Emilie Mumenthaler. L'objectif de la HEARC est désormais d'implanter ce concept d'escape game dans d'autres enseignements. Un ménage ne doit pas consacrer plus de 10% de son budget aux primes maladie. Le Parti socialiste n'aura eu besoin que de 10 mois pour convaincre 118 000 citoyens de mettre le surplus à charge de la collectivité. Il a déposé aujourd'hui son initiative populaire. Selon le PS, un ménage consacre à présent en moyenne 14% de son revenu disponible aux primes maladie, ce qui grève les finances des moins fortunés. Tout ce qui excède 10% devrait ainsi être payé par les cantons et la Confédération. Et ce ne serait pas un problème pour la conseillère nationale Adam.
On l'estime, selon la manière dont elle sera appliquée, entre 3 et 4 milliards. Ça peut sembler important, mais quand on sait que la Confédération a fait plus de 36 milliards d'excédents de recettes en 15 ans, et bien on voit que c'est tout à fait quelque chose qu'on peut se permettre en Suisse et surtout dont les citoyens et les citoyennes ont besoin urgemment.
Si la collectivité assume une partie des coûts, l'attitude du Parlement face aux problèmes du système de santé changera. C'est l'avis de Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse.
Quand vous discutez de maîtrise des coûts, vous avez tous les lobbies qui s'agitent et ils ont toujours des majorités pour renoncer aux mesures de maîtrise des coûts. Parce que simplement, la douloureuse, la politique s'en occupe pas. C'est les gens qui reçoivent leur augmentation de primes. La hausse de primes est la seule hausse d'impôts qui ne fait l'objet d'aucun débat dans aucun parlement, qu'on ne peut pas combattre par référendum. Donc c'est très confortable. On peut laisser les coûts monter. Il n'y a jamais de discussion sur le paiement de la facture. Si on met une limite à 10% dans la loi, alors effectivement, les hausses de coûts vont avoir un impact sur le budget de la Confédération et des cantons et vont donc enfin provoquer une prise de conscience des élus sur le fait qu'il faut maîtriser ces coûts.
Des propos recueillis par Jérôme Favre, l'initiative du PS s'inspire du système vaudois où le canton prend en charge la part de la facture supérieure à 12% du revenu disponible du ménage. Le peuple pourrait voter sur un congé paternité de 2 semaines. Le comité référendaire a déposé aujourd'hui à Berne 55 203 signatures réunies en faveur d'une votation populaire. La chancellerie fédérale doit encore les valider. Le suspense demeure car en début de semaine, les référendaires ne savaient pas encore s'ils avaient réuni suffisamment de paraphes. Le texte adopté par le Parlement prévoit d'accorder au père un congé de 2 semaines financé par les allocations pour part de gain. La charge financière serait de 230 millions de francs par an et nécessiterait un relèvement de 0,05 point des cotisations sociales concernées. Dans l'actualité internationale, la reine Elisabeth II a promulgué aujourd'hui l'accord de Brexit, une des dernières étapes avant que le Royaume-Uni ne largue définitivement les amarres fin janvier, après plus de 3 ans de déchirement. Le divorce sera donc consommé après 47 ans d'un mariage tumultueux avec l'Union européenne. Le traité de retrait doit encore être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier. Le Royaume-Uni deviendra ainsi le premier pays membre à quitter l'UE 2 jours plus tard. Et la tempête Gloria et ses pluies diluviennes ont fait au moins 9 morts en Espagne, selon un dernier bilan. 5 personnes sont toujours portées disparues. Depuis le week-end, l'est de l'Espagne est frappé par des pluies violentes, mais aussi des chutes de neige, des rafales de vent à 100 km/h et des vagues dépassant les 10 mètres de haut. Gloria a également atteint la France mardi. Les stations de ski des Pyrénées-Orientales ont été fermées et dans l'Aude, plusieurs campings ont été évacués.
Et à l'écoute d'RJB, il est 18h14.
Sport.
Le HC Bienne étoffe sa défensive en vue de la prochaine saison de National League. Le club rouge et jaune a annoncé cet après-midi la signature pour 2 ans du défenseur d'Olten, Ricardo Sartori. Formé à Ambri-Piotta, le hockeyeur tessinois a ensuite évolué plusieurs saisons à Lugano. En manque de temps de jeu, il a rejoint la Swiss League et les Souris cet été. Ricardo Sartori a pour l'heure comptabilisé 11 assists et 7 buts cette saison. Une semaine après le Lauberhorn, place à la Streif en Coupe du Monde de ski alpin. Si la piste de Wengen impose le respect, celle de Kitzbühel est encore plus redoutable. La pente, les mouvements terrain et le revêtement glacé, voilà les éléments qu'il faut réussir à apprivoiser pour réaliser une manche correcte sur le mythique tracé. Avant la descente, épreuve reine prévue samedi, c'est le Super G qui est à l'honneur demain dans la station autrichienne. S'il a toutes ses chances dans cette discipline, Beat Feutz n'en fait pas une priorité.
Wichtig, nein, wichtig nicht. Bon, je ne dirais pas que c'est important pour la descente. Évidemment, c'est aussi un objectif pour moi d'être bien placé en Super G. J'ai déjà atteint une 3e place ici. Je pense que le numéro de dossard jouera un rôle car des tout petits dossards ont déjà remporté la course ici. On verra bien ce que ça donne. De toute manière, le Super G n'est pas mon objectif principal ici. Je donne clairement la priorité à la descente de samedi.
Samedi, le Bernois aura l'occasion de réaliser le doublé Evenkidsbull, un fait historique que peu d'autres avant lui ont réussi. Si sa victoire de samedi passé lui donne beaucoup de confiance, Beat Feuth a tout de même eu besoin d'un peu de temps pour retrouver ses sensations.
Je
me sens très bien. Bien évidemment, je dois réussir à me conditionner pour être à nouveau performant cette semaine, parce qu'après la victoire à Wengen, il se passe beaucoup de choses. J'ai vécu quelques jours d'euphorie, mais ça provoque une certaine fatigue mentale. La victoire à Wengen me donne de la confiance, mais il m'a fallu bien deux jours pour redescendre. À quelque part, c'est aussi bien que les courses s'enchaînent rapidement, comme ça je peux retrouver le focus. Mais en ce qui me concerne, c'était aussi bien de profiter d'être deux jours à la maison avec la famille. Ça m'a permis en quelque sorte de remettre les compteurs à zéro.
Einfach wieder bei null anfangen.
Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial en Autriche, Hugo da Custodia. Et lors du deuxième entraînement, vu la descente, le Saint-Gallois Ralph Weber s'est classé 11e cet après-midi. Beat Feuth s'est lui contenté du 15e chrono lors de la dernière manche d'essai remportée par le Français Johan Claret. Et en football, le FC Sion a officiellement enrôlé Johan Djourou. Le club valaisan de Super League et le défenseur genevois de 33 ans se sont liés jusqu'à la fin de la saison. L'annonce a été faite aujourd'hui. L'ancien international suisse n'a plus disputé la moindre rencontre officielle depuis plus d'une année. Il avait rompu son contrat en janvier 2019 avec la formation italienne de Spal Ferrara. Prochain point avec l'information, 18h30. Excellente soirée.
Excellente soirée à vous également, Séverine Boya. Tout de suite, on prend des nouvelles du ciel, on écoute du YouTube et ensuite, on prend l'air. Pour ce soir et cette nuit, nous devrions profiter d'un ciel étoilé, en tout cas dans les hauteurs. En pleine, par contre, il faudra compter sur des nuages plus tenaces. Demain, nous nous réveillerons sous le brouillard au pied du massif, tandis qu'au-dessus de 800 mètres, le soleil sera le seul maître à bord. Il en sera ainsi dans toute la région dès le courant de l'après-midi. Concernant les températures, ça remonte pour tout le monde. D'après Météo News, il fera entre moins 1 et 0 degrés à l'aube. Pour la seconde partie de journée, le mercure devrait atteindre au mieux 7 degrés à Bienne et Moutier, 8 degrés à Tavannes et Saint-Imier. Samedi, quant à lui, sera nettement plus couvert, mais nous resterons encore une fois au sec.